Numéro 44.
Le Seigneur m'aime, bonne suprême.
Dieu nous a fait la grâce de participer à sa table aujourd'hui. Il veut nous voir participer de nouveau avec lui dans son royaume céleste. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as appelés à communier avec toi aujourd'hui. Nous prions que tu nous accordes la grâce de rester attachés à la communion à laquelle tu nous as appelés depuis que tu nous as appelés tes enfants. Prions, Seigneur, que tu nous donnes la force de marcher et de rester ferme dans la foi jusqu'à ce que tu viennes prendre ton Église. Préserve-nous de toute chute et de tout mal, afin que nous soyons inébranlables et que nous restions fidèles, attachés à ta volonté. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse.
Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut faire plus fort que ça? Amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des Romains, chapitre 12. Du 6e au 8e verset. Romains chapitre 12, du 6e au 8e verset. La Bible nous dit, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons des prophéties l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation. » Que celui qui donne les fasse avec libéralité, que celui qui préside les fasse avec zèle, et celui qui pratique la miséricorde les fasse avec joie. Nous allons aussi lire dans Matthieu chapitre 13, verset 23, vraiment une des conclusions, une des paraboles du semeur. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 13, verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, et un autre 30. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous permets encore une fois de nous retrouver dans ta présence afin d'écouter de ta part. Père éternel, nous prions que tu puisses encore une fois guider ces moments. Nous prions, Père éternel, que ces moments, Seigneur, soient bénis par toi et que la parole, Seigneur, qui va être proclamée en ces lieux, puisse toucher réellement les besoins et la question, Seigneur, de toute personne qui se retrouve ici. Père éternel, je prie que tu puisses encore une fois te servir de moi et que chaque parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par toi. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonjour à tous. Alors, nous continuons notre série, ou bien nous voulons conclure aujourd'hui. Vous vous rappelez de la série que nous sommes en train de suivre depuis 3 semaines, n'est-ce pas? Comment elle s'appelle? Les 3D. Nous sommes en train de parler des 3D. 3D pour dire découvrir, n'est-ce pas? La semaine passée, nous avons parlé de développer et aujourd'hui, nous allons conclure avec déployer. Déployer, pourquoi? Parce que les personnes qui ont de l'impact, ce ne sont pas les personnes qui ont bien planifié, mais ce sont les personnes qui sont passées à l'action. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons apprendre comment passer efficacement à l'action pour bien utiliser les potentiels que Dieu a déposés en nous. Amen. Alors, j'ai dit au début, dans l'introduction de cette série d'enseignements, que chacun d'entre nous a été créé avec un potentiel. Il y a des choses que Dieu a mises en nous. Le potentiel, c'est ce que nous pouvons devenir que nous ne sommes pas encore. Chaque enfant ici, qui est ici, a un potentiel. Nous ne savons pas encore ce que cet enfant pourra devenir dans le futur ou ce que cet enfant pourra faire. Et donc, il est important pour nous de l'aider à croître jusqu'à ce qu'il puisse faire ressortir toutes ces choses que Dieu a déposées en eux. Nous avons aussi dit, au fait, chaque chose que Dieu a créée a un potentiel. Dans chaque graine, il y a un arbre, il y a une forêt. Dans chaque matériel brut, il y a quelque chose, un appareil que nous pouvons utiliser. Okay? Et la semaine passée, nous avons vu comment est-ce que nous pouvons développer notre potentiel. Il y a d'abord la partie de découvrir, ça nous en avons parlé la semaine antérieure. La semaine passée, nous avons parlé de comment est-ce que nous pouvons développer notre potentiel. Et nous avons vu combien il est important pour nous de développer nos potentiels. Nous avons dit qu'il est important pour nous de développer notre potentiel parce que le potentiel, c'est ce que Dieu nous donne. Mais quand nous le développons, nous sommes en train de faire une offrande à Dieu. Parce que Dieu est glorifié quand nous utilisons ce qu'il nous a donné pour sa gloire. C'est pour ça que Jean chapitre 15, verset 8 dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Quand tu n'utilises pas les potentiels que Dieu a mis en toi, il a mis en toi un don de chanteur, il a mis en toi des capacités techniques ou autres, Dieu n'est pas glorifié quand tu ne portes pas de fruits. Nous avons aussi dit que quand nous développons notre potentiel, quand nous travaillons sur nous-mêmes, quand nous travaillons à affiner les capacités que Dieu a mises en nous, nous devenons aptes pour la mission que Dieu a prévue pour nous. Nous devenons aptes pour la mission que Dieu a prévue pour nous. Et c'est là que j'ai dit que les grandes opportunités sont pour ceux qui y sont préparés. On ne va pas seulement venir te choisir pour une grande responsabilité juste parce que tu as de beaux yeux. Non. Peut-être si tu veux devenir un mannequin ou c'est pas un modèle, c'est là peut-être qu'on peut venir te voir pour ta figure, pour ta forme. Et même ces mannequins-là, il y a des choses qu'ils font pour garder cette forme. Ils font beaucoup d'exercices. On les voit même à la télé, comment ils sont en train de s'exercer juste pour garder une forme. Comment est-ce qu'ils sont en train de se priver de certains menus juste pour garder une certaine taille. Donc vous comprenez que chaque grande responsabilité demande un certain degré de préparation. Un certain degré de préparation. Et j'ai dit que l'utilité est directement liée à l'investissement que nous faisons en nous-mêmes. Je vais vous donner un autre exemple qui, encore une fois, montre combien ce principe est important. Dans 1 Roi chapitre 5, verset 5, au début là, Salomon, le fils de David, il veut construire un temple pour l'Éternel. Et il contacte le roi de Tyr, le roi de Tyr qui s'appelait Hiram, parce qu'il avait besoin des bois du Liban. Et il avait aussi besoin de l'expertise qui venait de ces pays-là. Et voici ce que Salomon a dit au roi Hiram de Tyr. 1 Roi chapitre 5, versets 5 à 6. Il dit, « Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ça sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Salomon contacte le roi Hiram pour du matériel d'abord. Il dit, nous avons besoin de ces bois-là qui viennent de chez vous là. Parce qu'ici chez nous, pour la charpente du temple, on n'a pas du bois de qualité comme celui qui vient de chez vous. Et puis il continue en disant, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban, mes serviteurs seront les tiens et je te paierai les salaires de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens, comme les gens de chez toi. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Il y a vraiment un certain degré d'expertise qu'on atteint et on n'a même plus besoin de chercher du travail. C'est le travail qui nous cherche. Vous comprenez?
quand on développe son potentiel, quelqu'un qui a déjà bien développé son potentiel, il n'a même pas besoin de chercher du travail. Au contraire, c'est le travail qui le cherche. Et en plus, tel qu'on le voit même dans ces passages, on ne lui propose pas un salaire, c'est lui qui propose. C'est ce que la Bible vient de dire. Et je te payerai les salaires de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Il y a un certain degré d'expertise qu'on atteint en développant son potentiel et on n'a même pas besoin de chercher du travail. On n'a même pas besoin de discuter pour un salaire. Parce que quand les gens voient la valeur de ce que nous pouvons produire, eux-mêmes nous disent, en tout cas, dis-nous seulement quel est le prix que nous pouvons payer pour que tu puisses venir nous aider à faire ce travail. Récemment, cette semaine, il y a une nouvelle que je lis en ligne. Et c'est à propos d'un jeune homme de 28 ans. Il s'appelle Alexander Wang. Et ce jeune homme-là vient d'être engagé par Meta, Meta qui est la maison mère de Facebook, ok? Il vient d'être engagé par Meta pour un salaire de 14 milliards de dollars. 14 milliards de dollars. Pourquoi? Parce que cette entreprise-là, Meta, s'est retrouvée qu'elle est un peu en retard par rapport à l'intelligence artificielle. Or, ce jeune homme ici, c'est un expert en développement des modèles en intelligence artificielle. Et Meta a décidé d'investir 28 milliards dans les labos de ces jeunes hommes pour qu'ils puissent les aider à développer des modèles d'intelligence artificielle. Vous imaginez? Parce que quand nous développons notre potentiel, c'est ce genre de niveau qu'on atteint. Je n'y suis pas encore, mais je travaille pour arriver là. Je travaille pour arriver à un niveau où je n'aurai pas à négocier un salaire. Au contraire, je vais juste dire, ok, si vous voulez que je vienne chez vous, en tout cas, voici ce que vous devez faire. Voici les conditions. Amen, amen. Mais cela n'arrivera que si nous développons notre potentiel. Amen. Nous avons dit qu'un potentiel non réalisé ne profite à personne. Et que ce que nous n'utilisons pas, nous le perdons. Et que Dieu attend de nous que nous multiplions ce qu'il nous a confié. Mais aussi, nous avons vu que quand nous développons notre potentiel, ça inspire les autres. Et là, j'ai donné l'exemple du fait que quand dans une famille qui a été connue pendant longtemps pour des personnes qui n'atteignent pas peut-être un certain niveau d'études, il suffit qu'une seule personne les fasse pour que les autres soient inspirés à les faire. Quand ils voient peut-être l'aîné qui a obtenu un doctorat, ils se disent, moi aussi, je peux les faire. Quand nous développons notre potentiel, nous inspirons ceux qui sont derrière nous. Amen. Nous avons par la suite vu comment est-ce que nous pouvons développer notre potentiel. Et je ne vais pas beaucoup m'atteler là-dessus, mais je vais quand même ajouter un point que je n'ai pas dit la semaine passée. C'est que pour développer aussi son potentiel, à part tout ce que j'ai dit, vous pouvez aller voir la vidéo, il faut bien gérer son temps. Gérer son temps avec sagesse. Gérer son temps avec sagesse. Beaucoup d'entre nous ne le savent pas, mais la plus grande ressource que nous avons, c'est le temps. C'est le temps. Chaque minute doit compter. Chaque minute que tu passes, tu dois te rassurer que dans cette minute, voici un nouvel acquis que j'ai. Parce qu'il y a beaucoup de distractions qui nous font perdre beaucoup de temps. Et après être sorti de ces distractions-là, on se retrouve juste comme ça, sans avoir rien gagné. Tu as passé toute une nuit en train de suivre un film ou une série. Et après, tu te réveilles, tu es fatigué, tu n'es pas productif. Mais au fond, quand on te demande, mais qu'est-ce que tu as gagné pendant toute cette nuit? Tu vas te rendre compte qu'au fond, tu n'as rien gagné. Tu es en train de perdre cette grande ressource qu'est le temps. Chaque minute doit compter. Tu dois rester rassuré que chaque minute que tu passes, c'est vrai qu'il y a un temps pour le divertissement, mais l'essentiel de notre temps, la plus grande partie de notre temps doit être utilisée pour développer notre potentiel. Et donc, tu dois te dire, comment j'utilise mon temps? Comment est-ce que j'utilise mes journées? Est-ce que c'est pour me développer ou est-ce que je passe tout ce temps dans des distractions qui, en fond, ne me permettent pas de m'épanouir? Utiliser sagement son temps est une manière de bien développer son potentiel. Jésus a dit dans Jean chapitre 9, verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Le temps qu'on perd, on ne peut plus jamais le récupérer. Et donc, il est vraiment crucial pour nous de faire quoi? D'utiliser sagement notre temps si nous voulons développer notre potentiel. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons utiliser efficacement ce que Dieu a déposé en nous. Mais d'abord, avant même de vous dire comment déployer efficacement ce potentiel, je vais quand même essayer de répondre à la question pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de déployer notre potentiel ? J'ai d'ailleurs introduit en disant que les personnes qui ont de l'impact, ce ne sont pas les personnes qui ont bien planifié. Ce ne sont pas les personnes qui ont accumulé des connaissances juste pour le but de les accumuler. Ce sont les personnes qui ont mis en application ces connaissances-là. Ce sont les personnes qui ont commencé à exécuter tout ce qu'ils ont planifié. Ce sont ces genres de personnes-là qui ont réellement de l'impact. C'est pour ça qu'il est important pour nous de passer à l'action. Une deuxième chose que nous devons savoir de pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de déployer notre potentiel, c'est que nos idées, les idées que nous avons, nos compétences, notre caractère croissent quand nous les sèmons. En fait, tant que tu gardes un grain dans ta poche, il ne va pas produire un arbre. Il ne va pas produire un arbre. C'est pour ça que chaque talent que Dieu a mis en toi, chaque don que Dieu a mis en toi, il faut que tu sèmes ça. Il faut que tu l'utilises. Parce qu'au fur et à mesure que tu l'utilises, c'est alors que tu deviens encore plus expert dans ce domaine-là. Beaucoup sont ici et peuvent le témoigner avec moi qu'ils ont commencé petit à petit. Il y a beaucoup de gens ici qui sont devenus experts en vidéographie, en photographie, mais je dois vous assurer, parce que j'ai quand même été témoin de leur évolution, qu'ils n'ont pas commencé avec ces degrés d'expertise. Ils ont juste utilisé les peu qu'ils avaient, ces grains-là. Et en l'utilisant, en les mettant au service des autres, ça a grandi. Petit à petit, ils sont en train de devenir experts. Et donc, nos idées, nos compétences, notre caractère croissent quand nous les sèmons. Et même les églises croissent quand nous envoyons des serviteurs en mission. On ne va pas dire que cette église ici va se reproduire ou va croître si nous ne nous décidons pas de s'aimer. OK? Si nous ne nous décidons pas d'envoyer des personnes pour qu'ils aient aussi commencé d'autres missions quelque part. Aujourd'hui, on parle de Goma Ouest. C'est parce qu'à un moment, nous avons décidé que non, une partie de cette congrégation va aller commencer une chapelle ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on se développe. Amen, hein? Une autre chose que vous devez savoir de pourquoi est-ce qu'il est très important pour nous de déployer notre potentiel, d'utiliser ce que Dieu a mis en nous, c'est que la tragédie de la vie, ce n'est pas la mort, mais ce qui meurt en nous pendant que nous sommes encore vivants. Ces rêves-là, ces idées-là, tu les laisses seulement mourir comme ça. Tu n'agis pas en fonction de ce que Dieu a mis en toi. Ces désirs-là de faire une différence, au fait, tu n'es pas en train de vivre. Tu existes seulement. C'est ça la tragédie de la vie. C'est pour ça que quand nous avons introduit cette série d'enseignements, nous avons dit que l'endroit le plus riche de la terre, ce ne sont pas les mines de coltan ici au Congo, ce ne sont pas les gisements de pétrole au Moyen-Orient, ce sont les cimetières. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts. Ils avaient de très bonnes idées, ils avaient de très bons plans, ils avaient des capacités qui pouvaient aider la société, mais ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas agi. Et par conséquent, ces choses-là sont mortes en eux pendant qu'ils étaient encore vivants. Et donc, il est important pour nous de déployer notre potentiel afin que nous puissions réellement vivre et non exister. Une autre chose, une autre raison pour laquelle il est important pour nous de déployer notre potentiel, d'utiliser ce que Dieu a mis en nous, c'est que notre fidélité à Dieu est prouvée par l'usage que nous faisons de ce qu'il a déposé en nous. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu si tu n'utilises pas ce qu'il a mis en toi. Il a mis en toi le salut pour que tu sois aussi un canal à travers lequel les gens vont le glorifier, pour que tu sois aussi un reproducteur d'autres disciples. Si tu n'utilises pas ça, tu n'es pas un serviteur fidèle. C'est aussi l'un des points de Matthieu chapitre 25, la parabole des talents. On peut lire ça. Tous ceux qui ont récupéré quelque chose, c'est le maître, et l'ont utilisé. On les a appelés des serviteurs fidèles. Mais la personne qui n'avait pas utilisé ce que le maître lui avait donné, on l'a appelé méchant serviteur. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, au verset 22. On dit, je peux même commencer au verset 20. On dit, celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant, en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. On passe à celui qui a reçu 2 talents. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit ce qu'il avait à dire. Et au verset 26, son maître lui dit, serviteur méchant et paresseux. Serviteur méchant et paresseux. Et donc, ce que Dieu a mis en nous, si nous voulons vraiment être fidèles, si nous voulons être parmi ceux qu'on appelle des fidèles serviteurs, nous devons l'utiliser. Nous devons les déployer. Nous devons les mettre au profit de ceux qui sont autour de nous. Ça peut être à l'église, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être à l'école. Si Dieu a mis en toi une capacité qui peut servir ceux qui sont autour de toi, tu dois l'utiliser. Toi, il dit. Une autre chose que nous devons savoir, vous savez, nous, les jeunes, on cherche beaucoup la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il y a même un cantique de la couronne de vie qui est là, qui dit, quel est l'objectif de ma vie? N'est-ce pas que je la connais quand même? C'est un cantique qui commence avec une question. On cherche la volonté de Dieu. On veut savoir, bon Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Au fait, la volonté de Dieu s'accomplit quand nous acceptons d'utiliser ce qu'il nous a donné. Quand nous acceptons de servir les autres avec les dons et les talents qu'il a mis en nous. C'est comme ça aussi que la volonté de Dieu s'accomplit. Allô? Oui, c'est comme ça. Quand nous faisons ce pourquoi Dieu nous a créés, sa volonté s'accomplit. Ce n'est pas vraiment un truc là mystique, non. À partir du moment où tu commences à obéir, parce qu'il y a la volonté morale, ou en anglais on dit preceptive, will of God. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu où il nous dit les choses qu'il faut faire. Quand tu commences à les faire, tu es en train de l'accomplir. Allô? Donc, la volonté de Dieu s'accomplit quand nous acceptons de servir les autres avec nos dons et nos talents. Une autre chose, un autre pourquoi est-ce qu'il est important pour nous de déployer notre potentiel, c'est que déployer son potentiel, c'est offrir au monde la richesse unique que Dieu a déposée en nous. J'ai dit au début que chacun d'entre nous est unique. Chacun d'entre nous a une contribution particulière qu'il peut faire. On n'est pas bon à toute chose. C'est pour ça que Dieu nous a créés avec divers dons. Le passage que nous avons lu dans Romains chapitre 12, verset 6 dit, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc chacun d'entre nous a quelque chose de particulier, une contribution particulière qu'il est apportée et qu'il est appelé à apporter, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, que ce soit dans la société. Quand nous ne l'utilisons pas, nous privons le monde de notre contribution. Nous n'avons pas été créés pour être des consommateurs. Allô? Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont seulement au monde pour consommer. Quand il y a, je ne sais pas, un nouvel iPhone, il faut que tu le payes. Quand il y a, je ne sais pas, des nouvelles crèmes glacées en ville, il faut que tu ailles les goûter. Non! Tu as été créé pour contribuer. Tu as été créé pour contribuer. La question que vous devez vous poser en grandissant, c'est quand je vais quitter cette terre, est-ce que je vais laisser cette terre mieux que je ne l'ai trouvée? C'est une grande question que tu dois te poser. Au fur et à mesure que tu évolues dans la vie, tu dois te demander, quand je quitterai cette terre, ok, est-ce que je vais les laisser mieux que je ne l'ai trouvée? Une question de contribution. Et donc, refuser de déployer notre potentiel, c'est enterrer les dons que Dieu a placés en nous. Et c'est aussi priver le monde des solutions, des idées, des avancées que nous aurions pu apporter. Chacun de nous porte une part unique de la réponse aux besoins de notre génération. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient, ils sont en train de critiquer si tel avait chanté comme ça, ou bien peut-être si on avait projeté de cette manière, ça aurait été mieux. En fait, la meilleure façon de le faire, c'est de venir et de commencer déjà à contribuer et de dire, Ewan, vous pouvez faire ça et ça va donner quelque chose de mieux. Parce que toutes les contributions comptent. Toutes les contributions comptent. OK? Alors, comment est-ce qu'on peut déployer efficacement ce potentiel? La première chose que nous devons savoir sur comment est-ce que nous pouvons déployer efficacement notre potentiel, c'est que ceux qui ont déployé leur potentiel ne sont pas toujours les plus célèbres. Vous savez que nous vivons dans un monde où les gens veulent être célèbres, où les gens veulent être des influenceurs, où les gens veulent qu'ils aient beaucoup de followers sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et autres. Mais au fond, les personnes qui ont bien servi ne sont pas nécessairement ceux qui sont les plus célèbres. Parce que ces personnes ont une particularité, ils ont d'abord servi là où ils sont et avec ce qu'ils ont. Donc la première chose pour déployer efficacement notre potentiel, c'est de servir où nous sommes et avec ce que nous avons. Certains d'entre vous ont du temps. D'ailleurs, quand on est jeune, on a beaucoup de temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on encourage les jeunes à venir servir à l'église. Parce que nous savons que quand vous êtes là-bas, au fait, vous ne faites rien d'utile avec ce temps. J'ai tort ou j'ai raison? Généralement, on ne fait rien d'utile avec ce temps. C'est pour ça qu'on vous demande de servir à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose que vous avez. Plus on grandit, plus on n'a pas beaucoup de temps. Quelqu'un comme moi ici, il a beaucoup de responsabilités. Et le temps, c'est vraiment quelque chose de très rare que je peux te donner. Vous comprenez? Mais vous, vous en avez. Vous, vous en avez. Et il est vraiment important pour vous de commencer à bien l'utiliser maintenant. Parce que c'est une manière pour vous de contribuer. Certains d'entre vous ont des talents, sont des chanteurs, sont des musiciens, ainsi de suite, des compétences particulières. Certains d'entre vous sont forts. Cette force que tu as là, c'est quelque chose dont tu peux te servir pour contribuer à faire quoi? À faire avancer l'œuvre de Dieu partout où tu te retrouves. Et il y a des exemples dans la vie des personnes qui ont déployé leur potentiel avec ce qu'ils avaient là où ils étaient. Quelqu'un comme Joseph, avant de devenir premier ministre en Égypte, il était d'abord esclave dans la maison de Potiphar. Et on nous dit que dans la maison de Potiphar, il était fidèle. Il était fidèle. Il était fidèle tellement que Potiphar voulait faire quoi? Voulait faire de lui l'intendant de tout ce qu'il avait. Mais il n'avait pas idée que Dieu avait prévu pour lui quelque chose de plus grand. Mais partout où il s'est retrouvé, il servait fidèlement. Il servait fidèlement. Et après, il s'est retrouvé en prison. Même là, il a été fidèle. Tellement qu'on lui a même donné la supervision des autres prisonniers. Donc, servir où nous sommes avec ce que nous avons. Ça, c'est un premier principe pour déployer efficacement notre potentiel. Notre potentiel. Un autre exemple, c'est David. Vous savez que David a été choisi pour la royauté. Mais la première fois qu'il est arrivé au palais royal, ce n'était pas en tant que roi, c'était en tant que musicien. Allô? Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'était pas en tant que roi qu'il est arrivé pour la première fois au palais royal, c'était en tant que musicien. Parce qu'il a servi avec ce qu'il avait. Partout il s'est retrouvé. On peut lire ce passage-là parce que c'est quand même un passage assez intéressant. 1 Samuel chapitre 16 à partir du verset 14. On dit que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Et qui est cet homme? Ils sont allés chercher. C'était David. Et ils ont dit, voici, il y a un fils d'Isaïe qui sait jouer. C'est un homme fort, vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure et l'Éternel est avec lui. Et c'est comme ça qu'on est allé chercher David qui était en train de paître des brebis, était en train de garder les brebis de son père. Encore une fois, il était en train de servir là où il était. Encore une fois. Et on l'a amené où? Au palais royal. Pas en tant que roi, mais en tant que musicien. Donc, servir là où nous sommes avec ce que nous avons. Aujourd'hui, tu as des dons de musiciens. Aujourd'hui, tu as des talents de chanteurs. C'est peut-être ça la contribution que tu as apportée maintenant. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le sens de l'organisation. C'est peut-être ça la contribution que tu as à apporter maintenant, là où tu te trouves. Donc ça, c'est la première chose pour bien développer notre potentiel. Une autre chose que nous devons savoir si nous voulons déployer efficacement notre potentiel, c'est que nous devons identifier les besoins autour de nous et travailler à y répondre. Identifier. Il y a des problèmes qui attendent que toi, tu les résolves. Si Dieu t'a révélé un problème particulier dans ta famille, dans ton école, dans ton église, c'est que tu es une part de la solution que Dieu a prévue à ces problèmes-là. Est-ce qu'on se comprend? Si Dieu t'a montré un problème particulier dans ton église, dans ta famille, partout où tu peux te retrouver, c'est que tu es une partie de la solution à ces problèmes-là. Mais pour ça, nous devons quand même faire attention. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes autour de nous, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de problèmes que nous aimerons résoudre. Nous avons de grandes ambitions. Et là, il faut vraiment faire la distinction entre ce qu'on appelle les cercles d'influence et les cercles de préoccupation. Ça, c'est quelque chose que j'ai adapté d'un livre qu'on appelle « Seven Habits of Highly Effective People ». Les personnes qui sont les plus effectives, les personnes qui sont les plus efficaces, ce sont les personnes qui ont fait la distinction entre ce qu'on appelle les cercles d'influence et les cercles de préoccupation. C'est quoi les cercles d'influence? Les cercles d'influence, ce sont les choses que toi, tu peux changer immédiatement. Ce sont les choses sur lesquelles tu as un certain degré de contrôle. Par exemple, si tu arrives chez toi et la maison est sale, tu peux la nettoyer, n'est-ce pas? Si tu arrives dans ta chambre et elle n'est pas bien rangée, c'est ta zone, c'est ton cercle d'influence. Tu as la capacité de commencer à travailler pour arranger ta chambre. On est ensemble. C'est ça ce qu'on appelle le cercle d'influence. Oh, tu es aussi responsable de ton propre développement. Tu es responsable de ton évolution en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. C'est ton cercle d'influence. Tu peux travailler dur pour acquérir d'autres compétences. Ça, c'est ton cercle d'influence. Tu contrôles aussi comment tu peux réagir face aux situations de la vie. Ça, c'est ton cercle d'influence. Il y a aussi un deuxième cercle qu'on appelle les cercles de préoccupation. Les cercles de préoccupation, ce sont les choses qui nous préoccupent, mais sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup de contrôle. C'est comme la situation économique de notre pays, c'est comme la situation des guerres dans notre pays. C'est vrai que nous tous, nous aimerions que ça change, n'est-ce pas? Nous aimerions faire quelque chose par rapport à ça, mais nous n'en avons pas vraiment la possibilité. Et c'est pour ça que si tu veux vraiment déployer efficacement ton potentiel, commence par ton cercle d'influence. Je vous donne un exemple biblique pour bien ancrer ces principes-là dans vos esprits. Dans le livre d'Esther, Esther chapitre 4, Mardoché reçoit la nouvelle qu'il y a un édit qui vient d'être donné par les rois que tous les juifs vont être faire quoi? Ils vont être massacrés. Donc, il y a un génocide qui va être commis contre leur peuple. Et Mardoché, il est très préoccupé par cette nouvelle. Si nous lisons dans Esther chapitre 4, on voit Mardoché qui répand de la cendre sur lui-même, qui met des sacs, ainsi de suite. Au fait, Mardoché était préoccupé par le sort des Juifs, mais il n'avait aucun contrôle sur comment les sauver. Ce n'était pas dans son cercle d'influence. C'était dans son cercle de préoccupation, mais pas dans son cercle d'influence. Il a fallu qu'il y ait quand même une Esther qui, elle, a accès au roi parce que c'est dans son cercle d'influence pour que le peuple juif soit sauvé. C'est pour ça que quand nous lisons Esther chapitre 4, versets 13 à 14, nous voyons Mardoché qui est en train de parler à Esther et lui dire, Esther chapitre 4, versets 13 à 14, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant... Les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Tu es dans ces cercles-là d'influence. Tu es capable d'arriver jusqu'au roi et de changer cette situation. Donc si nous voulons efficacement déployer notre potentiel, nous devons faire la distinction entre notre cercle d'influence et notre cercle de préoccupation. Il y a des choses que tu peux changer maintenant. Ça peut être un problème en famille, tu as la capacité de le faire. Tu as tout le nécessaire. Nous avons dit que chacun de nous a un potentiel. Vous devez avoir la foi que Dieu a mis en vous. Tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la mission pour laquelle il vous a mis à part. Amen. Et nous devons aussi savoir ici que le potentiel, déployer son potentiel, ce n'est pas vraiment pour nourrir notre ego. Ce n'est pas pour que les gens nous voient. Ce n'est pas pour que les gens nous admirent. C'est vraiment pour contribuer. C'est pour les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ces choses-là de dire, bon, moi aussi, je vais faire ça, juste pour être vu, juste pour être admiré. En fait, déployer efficacement son potentiel, c'est toujours pour les bénéfices des autres. Toujours. Toujours. Je vous ai parlé de Joseph, je vous ai parlé de David. Tous ces gens-là ont été élevés, pas pour leurs propres bénéfices, mais pour les bénéfices des autres. Une troisième chose pour déployer efficacement notre potentiel, c'est que nous devons rester focalisés. Rester focalisés. En fait, quand on est jeune, on est dans cette phase de développement où on veut tout faire. On veut faire ça et ça et ça. C'est normal parce que vous vous recherchez encore. Pour certaines personnes, il faut un certain âge pour qu'ils comprennent exactement ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mais à un moment, il faut rester focalisé. Parce que certains dons, certaines capacités que nous avons sont pour une saison. Je vous ai dit la semaine passée que je peux peindre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ce que je donne comme contribution à la société, ce ne sont pas mes talents d'artiste, non. Ce dont la société a besoin de ma part aujourd'hui, c'est peut-être mes capacités d'ingénieur, mes capacités de leader, ainsi de suite. Vous comprenez? Parce que certains dons, certains talents sont des fois pour une saison ou pour une tâche spécifique. Et rester focalisé, c'est justement savoir que, ah, pour cette saison où je me retrouve, voici ce que je suis appelé à faire. Voici, par exemple, parmi tous mes dons, mes talents, ce que je suis appelé à utiliser. Vous comprenez? Une autre manière de rester focalisé, c'est d'avoir une vision, une cause spécifique pour laquelle nous sommes en train de travailler. J'ai parlé des objectifs, j'en ai parlé grandement la semaine passée. Grandement la semaine passée. Et je sais qu'il est très important pour nous de rester focalisés. Rester focalisé aussi, c'est une question de motivation et de vision. Parce que beaucoup de musiciens, par exemple, beaucoup de talents de l'Église se retrouvent dans le monde parce qu'ils ont manqué ce focus-là. Il suffit seulement que ses amis qui sont aussi musiciens lui disent « Ah, mon cher, allons aussi jouer dans ces bars ou dans ces cabarets. Il y a de l'argent là-bas pour les musiciens. » Il va immédiatement oublier que Dieu lui a donné ses talents, ses dons pour le ministère. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de focus. Restez focalisé. Restez focalisé, ça nous aide à ne pas tomber dans les distractions. Ça nous aide à ne pas tomber dans l'erreur. En fait, la meilleure manière de détruire ce que Dieu a mis en toi, c'est de l'utiliser pour des buts ou des objectifs qui ne sont pas alignés avec les plans de Dieu. Et nous avons des exemples de beaucoup de frères qui étaient à l'église. Ils nous dirigeaient dans la louange, ils chantaient bien, mais en même temps, ils chantaient aussi ailleurs. Et finalement, ils se sont retrouvés là-bas. Allô? Ça, c'est un message pour les musiciens. Il y a un leader dans la Bible qui n'était pas focalisé. C'est Saül. En fait, s'il est tombé, c'est parce qu'il était vraiment très tiré par l'influence des gens. À chaque fois qu'il tombait dans l'erreur, c'est parce qu'il y avait une pression des gens autour de lui. Et il a oublié les buts pour lesquels Dieu lui a donné la royauté. Quatrième chose pour déployer efficacement son potentiel, c'est que nous devons persévérer dans notre appel. Nous devons persévérer dans notre appel. En fait, nous pensons que quand nous commençons à utiliser nos dons, nos talents, ça va porter du fruit immédiatement. Ou bien nous allons réussir au premier coup. Mais généralement, quand nous déployons notre potentiel, quand nous commençons à utiliser ce que Dieu a mis en nous, ça peut être même cette entreprise-là que tu veux commencer. Tu ne réussiras pas toujours au premier coup. Tu ne réussiras pas toujours au premier coup. Il faut du temps pour qu'un arbre porte de fruits. De même, le résultat de notre déploiement ne sera pas toujours immédiat. Vous comprenez? Quand tu plantes un grain comme ça, tu attends, n'est-ce pas? Du temps pour qu'il puisse faire sortir un arbre. et tu vas même attendre du temps pour que cet arbre-là donne des fruits. Et si on abandonne très tôt, on n'arrose pas cet arbre-là, on ne prend pas soin, n'est-ce pas, de ces plantations-là, eh bien, ça ne va pas produire les meilleurs fruits. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Il est important pour nous que nous puissions persévérer. Un exemple dans l'histoire que j'admire beaucoup, hein, c'est le fondateur d'Apple. Vous connaissez Apple? Vous connaissez Apple? Oui, Apple, ce sont des personnes qui nous produisent l'iPhone, n'est-ce pas? Cette société-là a été créée par des gars, mais celui qui est connu le plus, il s'appelle Steve Jobs. Ça a été créé par Steve Wozniak et Steve Jobs. Alors Steve Jobs, vous savez qu'en 1985, il a été viré de cette entreprise-là. L'entreprise que lui-même a créée, mais on l'a virée. On l'a virée. Et pendant 7 ans, pas seulement 7 ans, 12 ans d'ailleurs, 12 ans, il s'est retrouvé à l'extérieur en train d'essayer autre chose. Mais à un moment, ce qu'il était en train de faire à l'extérieur là, a eu tellement d'influence, a commencé à produire que Apple a décidé de racheter ça. Ils ont racheté ce que lui a fait à l'extérieur. En fait, il a créé une autre compagnie qu'on appelle Pixar. Pixar, c'est une compagnie qui nous fait des dessins animés. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Nemo, vous avez déjà vu Toy Stories, ok? Ça, c'est Pixar. Quand Apple a vu ce que Steve Jobs faisait à l'extérieur, ils ont racheté Pixar. Et c'est comme ça que Steve Jobs s'est retrouvé encore chez Apple, alors qu'il avait été viré. Et quand il s'est retrouvé là, c'est là qu'il a même fait de cette compagnie l'une des compagnies les plus influentes du monde. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un iPhone à cause de l'influence de Steve Jobs. Mais on ne voit pas tout ce qu'il a subi pour arriver à ce niveau-là. Il a d'abord été viré, il a commencé à cascader, et après on l'a encore ramené, et finalement, il a donné cette entreprise qui est évaluée à des trillions de dollars. Pas à des milliards, mais des trillions de dollars. Comprenez? Parce qu'il faut persévérer. 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 Je vais donner un bonus pour ceux qui ont déjà atteint un certain niveau. Hein. Comment est-ce qu'on peut encore une fois développer notre potentiel efficacement? Pour ceux qui sont peut-être déjà à un stade de la vie où ils ont déjà grandi, ils ont déjà commencé à utiliser leurs dons, ils sont déjà adultes, quoi. En fait, une autre manière de bien reproduire son potentiel efficacement, le déployer, c'est de se reproduire. C'est de se reproduire. Ça, je n'ai pas mis parce que ça m'est venu pendant qu'on était en train de faire la louange ici. Pourquoi se reproduire? Je vais vous lire ces principes-là dans Genèse chapitre 1, versets 21 et 24. Les principes de la reproduction. Genèse chapitre 1, verset 21. On dit que Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon ton espèce. Dieu vit que cela était bon, selon son espèce. Le verset 24 dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Donc chaque chose d'une certaine espèce produit une autre chose de cette même espèce-là. Il y a des personnes ici qui ont déjà atteint un certain niveau dans la vie. Ce sont des ingénieurs, ce sont des pasteurs, ce sont des évangélistes. Ils sont même devenus matures spirituellement. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est en train de reproduire des personnes des mêmes espèces que nous? Depuis que tu as cette carrière-là d'ingénieur, que tu es déjà arrivé à ce stade-là de la vie où tu dis vraiment, j'ai déployé mon potentiel, combien d'autres ingénieurs tu as reproduit? Moi, je n'ai pas encore 40 ans, mais je peux dire quand même avec confiance que j'en ai déjà reproduit 3. Allô? Parce que c'est une manière efficace de faire quoi? De déployer son potentiel. Depuis que tu es disciple, depuis que tu es vraiment dans la foi, et tu es assis dans ta foi, combien d'autres disciples as-tu déjà créé? La loi de la reproduction, c'est une manière efficace, très efficace de faire quoi? De développer notre potentiel. Depuis que tu es un chantre, tu es, je ne sais pas, coach d'une chorale, combien d'autres coachs tu as déjà reproduit? Combien d'autres conducteurs de louanges, tu es un conducteur ou une conductrice de louanges de renommée, combien d'autres conducteurs et conductrices de louanges de renommée tu as déjà reproduit. Parce que ça, c'est aussi une manière très efficace de faire quoi? De déployer notre potentiel. Même Jésus a utilisé ces principes. Parce que dans Jean chapitre 14, verset 12, il dit que celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que moi. Et il fera encore bien plus encore. Loi de la reproduction. Et donc, pour ceux qui sont jeunes, je comprends que vous êtes encore à ce stade-là de développement. Mais pour ceux qui ont déjà atteint un certain stade, en tout cas, ne vous réjouissez pas du fait que vous êtes seul. Il y a des personnes qui se réjouissent parce qu'ils sont les seuls riches dans leur famille. En tout cas, ce sont des gens qui ne déploient pas leur potentiel. Il faut déjà que tu te rassures combien d'autres riches je suis en train de produire dans cette famille. Parce que c'est une manière très, très efficace pour nous de faire quoi? De déployer notre potentiel. Nous sommes limités dans le temps. Nous sommes limités dans nos capacités physiques. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à comment est-ce que nous pouvons perpétuer ce que Dieu a mis en nous. Toujours. Que le Seigneur nous aide. Je ne vais m'arrêter là. Nous allons nous lever pour la prière. Et je vais conclure en disant que le déploiement du potentiel n'est pas seulement une question de talent. Ce n'est pas seulement une question de talent. Ce ne sont pas seulement ceux qui ont un certain talent qui peuvent déployer, non. Mais c'est d'abord une question de vision. Quel est ce problème-là? Quel est cet objectif-là que tu t'es donné, que Dieu a mis en toi? Quelle est cette vision que Dieu t'a donnée? Parce qu'à partir du moment où tu commences à la poursuivre, tu vas avoir des capacités pour faire quoi? Pour l'accomplir. Dieu va te faire découvrir que, en moi, j'ai les capacités pour arriver à faire quoi? À atteindre cet objectif. Déployer son potentiel, c'est une question de persévérance. Une question de persévérance. Et d'aligner nos valeurs pour servir les causes, la cause de Dieu dans notre Église, dans notre société. Rappelez-vous que j'ai dit que la meilleure manière de détruire ce que Dieu a mis en nous, c'est de l'utiliser pour un autre but, et celui pour lequel Dieu nous l'a donné. Et le Seigneur nous aide. Chacun d'entre nous va commencer à dire une prière, va commencer à demander à Dieu de l'aider à identifier quelle est cette chose, quel est ce problème particulier que tu as appelé à résoudre, quel est cet endroit où tu as appelé à contribuer. Ça peut être ici à l'église. Peut-être que tu t'es assis pendant longtemps, on était en train de demander à ce que des personnes puissent se joindre au service, aux médias, dans les protocoles, les amis de la propriété. Beaucoup de services ici ont besoin de personnes comme toi, mais tu n'as pas répondu à cet appel. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'appeler à y répondre. Peut-être que c'est dans ta famille, il y a un problème particulier que Dieu t'a montré, parce qu'il te l'a montré, c'est que tu fais partie de la solution à ces problèmes-là. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses commencer à agir. Que tu puisses commencer à faire des pas d'action, des petites actions afin de petit à petit résoudre ces problèmes. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais avec Dieu, avec persévérance, nous croyons que chacun d'entre nous y arrive. Merci Seigneur.
De mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme. Accepte mon offrande, ô Jésus, Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme.
Seigneur,
Nous venons encore une fois devant toi cet après-midi pour te demander d'accepter notre offrande. Oui, Seigneur, ce que tu as mis en nous quand nous l'utilisons, c'est notre offrande à toi. C'est pourquoi, Seigneur, j'ai prié pour ma sœur, mon frère et pour tous ces jeunes qui sont ici, Seigneur, afin qu'un jour, Seigneur, tu puisses leur faire découvrir les potentiels, les grandeurs, Seigneur, les grandes choses que tu as mises en eux, afin qu'ils puissent être des personnes solutions, Seigneur, pour les problèmes de cette génération. Qu'ils puissent être des canaux de bénédiction dans ton Église, dans cette société, Seigneur, qui a tellement besoin de personnes ressources, des personnes sérieuses qui sont appelées à encore une fois être des personnes solutions aux problèmes les plus pressants de nos sociétés, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas continuer à nous y aider. Père éternel, je veux particulièrement prier pour cette personne-là, Seigneur, qui ne te connaît pas encore. Cette personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur, malgré que tu es notre Créateur et celui qui a mis en nous, Seigneur, ton image, mais aussi les capacités d'accomplir de grandes choses, Seigneur. Père éternel, nous prions que tu puisses te révéler à cette personne. Que tu puisses encore une fois, Seigneur, montrer que Jésus est le chemin, la vie et la vérité, Seigneur. La personne qui nous connecte à toi, notre Père, et nous aide, Seigneur, à accomplir les œuvres pour lesquelles tu nous as créés. Merci, Seigneur, parce que tu vas continuer à nous aider. Nous prions, Seigneur, pour toutes ces personnes qui, pendant longtemps, se sont assises alors qu'elles avaient des choses à contribuer pour ton œuvre ici dans cette église. Nous prions, Père éternel, que cet après-midi soit un après-midi de décision. Que quelqu'un ou quelqu'une aujourd'hui s'élève et dise oui. Finalement, je vais aussi m'impliquer. Je vais servir dans ma cellule. Je vais servir dans la chorale. Je vais servir dans les amis de la propriété. Je vais servir dans les protocoles ou aux médias. Nous prions au Dieu pour ce genre de décisions, afin que ces personnes puissent croître et devenir, au Dieu, les ouvriers, Seigneur, efficaces que tu as créés pour ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que tu vas les faire. Accepte mon offrande, ô Jésus-Fils.
Écoute-moi, descends la flamme du Saint-Lieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous mettre. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour sa parole. Et nous étions en train de conclure notre série qui était intitulée les 3D. Est-ce que vous pouvez me rappeler le premier D, qu'est-ce que ça veut dire? Disons ça à haute voix. Le premier D, c'est quoi? Découvrir. Le deuxième? Développer. Le troisième, est-ce que nous pouvons encore une fois bénir les serviteurs de Dieu? Que Dieu vous bénisse, Papa Jérémy, pour ces bénédictions que nous avons acquéries pendant ces 3 dimanches. Et je crois encore des séances qui viennent, nous serons encore tellement bénis par d'autres enseignements. Alléluia.